Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, que je trouve très beau et qui a quelque chose à nous dire aussi sur la recherche du bonheur et sur la place de Dieu dans notre vie. C'est dans un petit recueil, un petit texte de Peggy qui s'appelle « Note conjointe sur Monsieur Descartes ». Voilà ce que dit Peggy. « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse. C'est d'avoir une âme habituée. » On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse. Et on a vu sauver ce qui paraissait perdu. Mais on n'a pas vu mouiller ce qui était verni, on n'a pas vu tremper ce qui était habitué. Les cures et les réussites et les sauvetages de la grâce sont merveilleux. Et on a vu gagner, on a vu sauver ce qui était comme perdu. Mais les pires détresses, mais les pires bassesses, les turpitudes et les crimes, mais le péché même sont souvent les défauts de l'armure de l'homme. Les défauts de la cuirasse par où la grâce peut pénétrer dans la cuirasse de la dureté de l'homme. Mais sur cette inorganique cuirasse de l'habitude, tout glisse et tout glaive est émoussé. Ou si l'on veut, dans le mécanisme spirituel, les pires détresses, bassesses, crimes, turpitudes, le péché même sont précisément les points d'articulation de la grâce. Par là, elle travaille. Par là, elle trouve le point qu'il y a dans tout homme pécheur. Par là, elle appuie sur ce point douloureux. On a vu sauver les plus grands criminels par leur crime même, par le mécanisme, par l'articulation de leur crime. On n'a pas vu sauver les plus grands habitués par l'articulation de l'habitude, parce que précisément l'habitude est celle qui n'a pas d'articulation. On peut faire beaucoup de choses. On ne peut pas mouiller un tissu qui est fait pour ne pas être mouillé. On peut y mettre autant d'eau que l'on voudra, car il ne s'agit point ici de quantité, il s'agit de contact. Il ne s'agit pas d'en mettre. Il s'agit que ça prenne ou que ça ne prenne pas. Il s'agit que ça entre ou que ça n'entre pas en un certain contact. De là viennent tant de manques, car les manques eux-mêmes sont causés et viennent. De là viennent tant de manques que nous constatons dans l'efficacité de la grâce et que, remportant des victoires inespérées dans l'âme des plus grands pécheurs, elle reste souvent inopérante auprès des plus honnêtes gens sur les plus honnêtes gens. C'est que précisément, les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invisible arrière-anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présentent point cette entrée à la grâce qui est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé. Et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. Quel admirable texte de Peggy. Admirable texte de Peggy qui nous dit justement que nous ne pouvons pas nous habituer et que nous avons toujours à nous émerveiller devant cette action de la grâce de Dieu. Et je crois que devant cette recherche de bonheur qui est la nôtre, nous avons à reprendre cela. Certains ont évoqué la question du bonheur et de la croix. Comment peut-on être heureux en vivant la croix? Je crois qu'il y a la réponse là qui nous est donnée. La croix n'est pas un espèce de supplice qui nous obligerait à vivre comme malheureux. La croix n'est pas quelque chose qui s'impose à nous, même si je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on n'en sait ni la forme, ni le moment, ni l'intensité qu'elle prendra. Mais la croix est l'occasion de la rencontre du Christ. Et la croix est l'occasion de l'action de la grâce. En n'oubliant pas que cette croix n'est pas une fin. Le Christ n'est pas mort pour mourir, il est mort par amour. Et il est mort pour que cet amour débouche sur une vie qui ne finit pas. Comment est-ce que nous vivons nos croix avec amour? Avec l'amour de nous-mêmes, avec l'amour des autres et avec l'amour de Dieu. Et donc la croix que tous nous portons, quelle qu'elle soit. Cette croix est le chemin par lequel Dieu se dit. Si nous vivons le mystère de la croix comme le Christ l'a vécu, en la portant et en nous aidant, en nous faisant aider pour la porter, si nous le vivons avec cela, avec cet amour même au cœur, alors je pense qu'il y a une vraie fécondité. Une vraie fécondité dans ce que nous portons. Vous voyez bien, vous voyez la fécondité que vous avez. La fécondité, elle n'est pas que charnelle. La fécondité, elle est dans le rayonnement, nous le parlions dans notre groupe tout à l'heure. Elle est dans un sourire échangé. La fécondité, elle est dans une oreille. Je pense que nous avons tous une sensibilité qui diffère. Mais certains, parce qu'ils vivent une blessure profonde, cette blessure qui ne sera jamais totalement cicatrisée, comme dit Peggy, certains vivent cette blessure qui fait qu'ils sont attentifs à la blessure de l'autre, qu'ils ne passent pas à côté de l'autre. Il y a, permettez-moi de le dire, comme je ne le dirai pas n'importe comment, comme une grâce qui est donnée, une chance qui est offerte dans ce que vous pouvez vivre, dans le don que vous pouvez faire de ce que vous vivez, non pas en le gardant pour vous, mais en le donnant aux autres, en le donnant comme cette grâce que vous avez en vous et qui vous permet de porter les autres aussi. Tout à l'heure, je parlais avec tel ou tel de la nécessité de l'écoute. Dans ce monde où tout le monde parle et où si peu écoute, je pense que beaucoup d'entre vous vivez des choses qui vous permettent d'écouter. D'écouter non simplement avec les oreilles, mais avec le cœur. Et du coup, je crois que voilà, ce mystère de la croix que nous ne comprenons pas, soyons clairs, beaucoup d'entre vous, très certainement, auraient choisi une vie différente si elle leur avait été proposée. Mais ce que vous vivez aujourd'hui, non pas simplement n'est pas sans valeur, mais a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Parce que vous avez une valeur infinie aux yeux de Dieu. Mais ce que vous vivez est de même que le bonheur une mission que vous recevez. Comment dire à ceux qui vivent des épreuves que leur vie a un sens ? Que la croix qu'ils portent n'est pas une croix qui les écrase, ni une croix qu'ils doivent porter comme un étendard, car c'est les deux manières de porter une croix, mais comme une croix qui leur permet de découvrir que finalement, c'est le Christ qui la porte avec eux. Et que le meilleur ciment de sirène, c'est le Christ. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure la comparaison avec le joug, parce que nous ne pouvons pas porter le joug tout seul. Nous ne pouvons pas porter notre croix tout seul. Et que donc, cette croix, nous avons la portée avec d'autres, avec le Christ, la lui présenter, le lui hurler parfois. Parfois, nous ne pouvons que hurler, mais Seigneur, pourquoi ? Seigneur, sauve-moi ! Et en même temps, il faut l'entendre nous dire, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Ton nom est inscrit sur la paume de mes mains, tu vois bien, je t'aime. Et je ne t'aime pas, avec des conditions, je t'aime comme tu es. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'affronter jour après jour les difficultés qui sont les autres, qui sont les nôtres, qui peuvent être les autres aussi d'ailleurs. On a posé une question, je ne sais pas très bien dans quel ordre les prendre, parce qu'elles sont toutes intéressantes, mais toutes fortes. Il y en a une que j'ai envie de prendre parce qu'elle m'a titillé. Il faut que je la retrouve. Entre ce que vous avez dit et les dogmes et les règles de l'Église catholique, il y a un décalage. Comment vous situez-vous ? Je me situe, j'espère, du côté de l'Évangile. Et que je ne crois pas que Jésus ait édicté beaucoup de dogmes. Il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il a dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Il a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Il a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais il n'a jamais condamné. Il n'a jamais condamné. Et donc, je pense que les dogmes, dans lesquels il n'y en a pas beaucoup, honnêtement, de dogmes qui concernent la sexualité, croyez-vous que Dieu s'est fait homme, qu'il a tellement aimé le monde qu'il est devenu homme, qu'il a tellement aimé les hommes, qu'il est allé jusqu'au bout de l'amour en donnant sa vie, et que sa vie n'a pas été perdue puisqu'il l'a donnée, et que mort sur la croix, Dieu l'a ressuscité pour que nous ayons la vie et que nous entrions dans sa vie. Croyez-vous à cela ? Si vous croyez à cela, c'est suffisant. C'est-à-dire, c'est ça qui vous fera avancer. Croire que Dieu aime tellement qu'il nous a donné Jésus et qu'il nous faut suivre Jésus. suivre Jésus. Et Jésus nous le dit, la suite de Jésus est radicale. Mais il nous dit aussi, ma grâce te suffit. Et il nous dit aussi, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Et je pense du coup que, je crois que s'il y avait une seule chose que j'aimerais faire un jour, c'est de dire, mais d'autres l'ont déjà écrit, donc c'est pas la peine que j'écrive avant tout, de toute façon je peux écrire. Mais c'est un éloge de la faiblesse, un éloge de la vulnérabilité. Bienheureuse vulnérabilité. Bienheureuse vulnérabilité qui ne met pas de nous une carapace, mais qui nous fait sensibles aux autres, à tout ce qu'ils vivent. Bienheureuse vulnérabilité. Et donc voilà, honnêtement, moi, je pense que l'Église... Vous savez, ça me rappelle quelque chose. La conférence des évêques a organisé une rencontre avec M. Macron au mois d'avril dernier. Donc c'était tout un truc très assez amusant. Un jour, on pourra vous raconter, ce n'est pas ici. Et à un moment, Macron, dans son discours, a parlé des questions de bioéthique. Et il a dit, mais vous-même, dans un très beau discours, d'ailleurs, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu, un discours magnifique, il a dit, mais vous-même, vous êtes dans votre Église, vous êtes toujours en tension entre une doctrine et puis l'accueil des personnes. Et que le lendemain, moi j'étais invité chez Léa Salamé à France Inter, elle m'a dit « Mais Monseigneur, c'est pas vrai que chez vous, vous accueillez des divorcés mariés, que vous accueillez des gens homosexuels, que vous avez... » Je lui ai dit « Mais écoutez, Léa Salamé, venez donc dans des paroisses aussi, venez donc voir des prêts, venez donc voir la réalité. » Alors c'est pas vrai partout. Mais c'est vrai aussi dans l'Église. Et donc je pense que la tension qui existe, elle est saine. Heureusement qu'on a quelque chose qui nous guide. Mais heureusement que Jésus ne nous dit pas de faire des grands pas, mais simplement de marcher humblement avec Dieu. Donc moi, je veux marcher humblement avec Dieu. Je ne veux pas montrer que je suis plus fort. Il y a un orgueil fou à penser qu'on est parmi les disciples dans le premier cercle, ceux qui sont le plus près de Jésus. Moi, j'ai envie d'être la brebis perdue, parce que je sais que là, Jésus viendra me chercher. Et il y a quelque chose d'être orgueilleux à penser qu'on est proche du Christ. Non, on est dans ce cercle, dans ce troupeau, et parfois la dernière des brebis, mais Jésus vient nous chercher. Alors ne soyons pas orgueilleux spirituellement, mais à notre place. Et croyez-moi, vous êtes bien plus proche du Christ que tant d'autres. Donc, allons-y humblement. Et ne pensons pas que ce que dit l'Église nous empêche de suivre le Christ. Un horizon nous est donné, et nous voulons suivre le Christ. C'est ça qui compte, la seule chose. Une dernière question avant de vous laisser la parole. Le bonheur, est-ce pour après seulement ? Heureusement que non. Heureusement que non. Je crois à l'après. Je crois à l'après, et honnêtement, vous voyez, une de mes grandes espérances, une de mes grandes impatiences, c'est de voir Dieu. Vraiment une grande impatience. Je ne suis pas suicidaire, mais... Alors, je suis vieux, mais je ne suis pas encore très vieux, et j'espère encore quelques années devant moi, mais j'ai quand même hâte de mourir. Pas pour mourir, mais pour vivre en Dieu. C'est-à-dire, j'ai hâte de découvrir la source de l'amour, le feu incandescent de l'amour. De découvrir de quel amour Dieu aime les hommes et je suis aimé. J'ai absolument pas peur du jugement, mais alors là, je suis totalement inconscient, peut-être, mais pas peur du tout du jugement. Si Dieu est miséricorde, qu'est-ce qu'il peut nous valoir de mal ? Qu'est-ce qu'il peut nous vouloir de mal ? La seule chose, c'est qu'il faudra qu'on s'habitue à cet amour. Comme dans le temps, il n'y a pas d'éternité, ça sera peut-être un peu douloureux de se dire, mais je suis tellement aimé. Vous savez, quelquefois, vous dites, c'est pas possible d'être aimé comme ça. C'est ça, de s'appeler le purgatoire ou comme vous voulez, s'habituer, se remplir, se laisser remplir de l'amour de Dieu. Mais ça, c'est le bonheur de demain. Mais ce bonheur de demain, il nous est déjà donné de le vivre quelque part aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans toute relation d'amour vrai, il y a quelque chose qui nous dit de l'amour de Dieu, quelle qu'elle soit, quelle que soit cette relation. Vous savez que en 2013 et 2015, les évêques ont écrit des déclarations dans le cadre du vote de la loi Taubira. Et pour la première fois, ils ont parlé de la relation homosexuelle et de la relation d'amour entre deux personnes du même sexe, en disant qu'il y avait quelque chose de Dieu qui se disait là-dedans. J'en suis intimement persuadé. Intimement persuadé. Je ne sais pas ce qu'il se dit. Je ne sais pas. Mais je sais que si Dieu est amour, et que si deux personnes s'aiment vraiment, alors il y a quelque chose qui est en lien. Forcément. Forcément. Comme dans toute relation humaine, il y a des imperfections. Dans toute relation humaine. Dans un amour entre un homme et une femme, comme dans un amour entre deux êtres du même sexe. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se dit de l'amour de Dieu dedans. Que ce soit à parfaire, que ce soit toujours à purifier, c'est toujours vrai. Que les égoïsmes soient à laisser côté, c'est toujours vrai. Mais un amour vrai, c'est un amour qui se donne, un amour qui pardonne, qui va au-delà du don parfait, qui refuse d'enfermer l'autre dans ce qu'il a commis. Un amour qui va jusqu'à donner sa vie pour celui, celle qu'on aime. Mais cet amour-là ne peut pas ne pas nous dire quelque chose de l'amour de Dieu pour nous. Donc je crois qu'il faut là-dessus être bien conscient de cela, avec aussi ce que cela veut dire de responsabilité et aussi de conversion permanente pour que Dieu pénètre, purifie sans cesse toujours davantage cet amour. Donc le bonheur, il est pour aujourd'hui. Parce que si le bonheur était pour demain, vous savez, c'est la théorie des évangéliques et la théorie de la prospérité qui nous font miroiter plus tu es pauvre aujourd'hui, plus tu donnes de ton fric au pasteur et à l'église, plus tu seras heureux plus tard. Ça ne me plaît pas trop, ça. Moi, j'ai plutôt envie de vivre en plénitude l'amour d'aujourd'hui. Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance, pas demain, mais aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que par rapport à cela, vous avez déjà quelques questions, quelques remarques, quelques débats ? Vous ne endormez pas tout de suite, s'il vous plaît, parce que sinon je vais m'endormir. C'est Saint Paul qui dit ça, dans la première épître aux Corinthiens, lorsqu'il dit qu'il est... C'est étonnant parce qu'il commence par dire qu'il a eu une vision, hein, qu'il est monté au septième ciel, là, hein, il a vu Dieu, il a eu ça. Et pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, il a cette épine dans la chair dont on ne sait pas ce que c'est, et où il dit, Jésus lui dit « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. » Et je rapproche ça de ce qui est dit dans un autre endroit de saint Paul. « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni l'angoisse, ni la mort, ni la peur, ni les persécutions. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Mais ça, il faut le tenir, mes amis. Rien ne peut nous séparer. Mais même pas le péché. Même pas le péché, puisque le péché est fait pour être pardonné. Et que si nous reconnaissons que, effectivement, nous sommes faibles, non pas avec la peur d'être jugés, mais avec ce désir infini d'être pardonné, mais alors ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et que du coup, la puissance qui se manifeste dans la faiblesse, c'est que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est que la faiblesse, qu'est-ce que c'est ? C'est la reconnaissance d'un manque, quelque part. C'est la reconnaissance que nous avons besoin d'un autre pour vivre. La personne handicapée a besoin d'un autre pour l'accompagner dans la vie. La personne qui est dépendante a besoin d'un autre pour l'aider. La personne qui, comme chacun de nous, vit une faiblesse, a besoin de l'autre, ne serait-ce que pour être regardée, mais être regardée aussi avec amour. Et ce manque est un appel aussi à Dieu. Ce manque est un appel pour que Dieu puisse nous donner sa force, sa puissance. On n'est pas faible pour le plaisir d'être faible. Ça s'appelle le masochisme. On est faible pour ouvrir notre cœur à la puissance de Dieu qui transforme tout, parce que nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Et donc si dans le cœur de cette faiblesse, nous acceptons de nous ouvrir devant cette faiblesse, alors nous savons qu'il pourra la transformer. C'est ça l'espérance. Dans ma vie, il y a bien des moments où je me suis trouvé nul. Mais nul à chier, pardonnez-moi l'expérience. Vraiment nul. Et je me disais, mais Seigneur, tu vas bien me sortir de là. Tu vas bien me sortir de là. Tu vas bien m'indiquer une voie. Ça a pu mettre des semaines, des jours, des semaines, des mois. Jamais le Seigneur ne m'a fait défaut. Jamais. Celui qui implore le Seigneur celui qui lui dit « Seigneur, sauve-moi », celui qui lui dit « Guide-moi », celui-là, il entendra. Le Seigneur ne lui manquera pas. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu donne toute sa mesure. Avec une seule chose, c'est que je crois que nous ne dictons pas à Dieu ce qu'il doit faire. Nous accueillons ce qu'il veut faire. Et quelquefois, lorsque nous sommes faibles, nous avons envie que Dieu nous rende forts comme nous voulons être forts. Mais Dieu ne nous rend pas forts comme nous voulons être forts. Mais il nous rend forts comme lui veut que nous soyons forts. Et ça peut être un peu différent. Se laisser désarmer par Dieu, se laisser déboussoler par Dieu, c'est en même temps se laisser affermir par Dieu. Non pas par nos voies, mais par les siennes. Avec cette certitude que le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et donc, il faut en même temps faire confiance et en même temps se laisser déposséder de ce propre chemin que j'aimerais tellement prendre parce que je sais mieux que toi, Seigneur, ce qui est bon pour moi. Ben non. Tu me scrutes et tu me connais. Tu sondes mes reins et mon cœur. Et lui seul peut faire. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Parce que je pense qu'il y a dans toute vie des blessures, dans toute vie des failles, quelles qu'elles soient. Et que ces failles, elles ouvrent en nous une béance, cette espèce d'amertume secrète, cette espèce de cicatrice éternellement mal fermée, et que c'est ça qui est un appui à la grâce. Et que du coup, dans la recherche de sainteté que nous avons, nous avons quelque part, cette espèce d'humilité radicale parce que on n'a pas choisi, parce que vous n'avez pas choisi, parce qu'il y a ce qui nous caractérise, mais voilà. Et c'est là que Dieu se dit. C'est là que Dieu se dit. Dieu ne se dit pas en dehors de vous, il ne se dit pas en dehors de moi. Il se dit dans ce que je suis, avec ce que je suis. Et il nous invite à faire de cela, j'allais dire, le matériau du témoignage, le matériau de son amour. Donc, en raison de l'homosexualité peut-être, mais en raison surtout de ce que vous êtes, des êtres aimés de Dieu, des enfants de Dieu, aimés comme lui. Et il vient chercher ceux qui ont besoin de lui. Donc, vous avez peut-être besoin de lui par cet aspect de votre personnalité, par d'autres aspects, mais vous avez besoin de lui. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, il y a les âmes habituées, les âmes rassasiées. Et donc parce qu'il y a en nous, parce qu'il y a ce désir de Dieu, alors je pense qu'il nous parle comme ça. Ben bien sûr. Bien sûr qu'il a besoin de nous. Pourquoi nous aurait-il créés s'il n'avait pas besoin de nous ? Il a besoin de nous pour être le reflet de son amour. Il a besoin de nous pour incarner au cœur de ce monde l'amour dont il est porteur. Il a besoin de nous pour construire un monde juste et fraternel. Il a besoin de nous pour que nous soyons artisans dans son royaume. Il ne cesse d'avoir besoin de nous. Et non seulement il a besoin de nous, mais il nous demande. Il nous demande d'agir. Et Dieu ne cesse de nous dire, mais je t'ai donné la vie, rends cette vie. Donne-la à ton tour. Donne-la à ton tour. Alors oui, Dieu a besoin de nous. C'est sûr. Et il y avait une question à un moment. Que je rapproche de celle-là. À quoi ça sert d'aimer Dieu ? À rien. Ça sert à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'ordre de l'utile. C'est pas d'une utilité folle. Je vais vous dire, hein, on est 7 milliards d'humains sur la Terre, 1 milliard 300 millions de catholiques, allez, 400 millions de protestants, 1 milliard 200 millions de musulmans, 2-3 millions de juifs. Ça fait quand même une énorme proportion d'humanité qui ne connaît pas Dieu. Une énorme proportion d'humanité qui ne connaît pas Dieu. Vous croyez qu'ils sont tous malheureux ? J'espère que non. Honnêtement, j'espère que non. Ce qui veut dire qu'on peut très bien être heureux sans Dieu. On peut très bien être heureux sans Dieu. Et c'est une chance. Mais en revanche, lorsque l'on connaît Dieu, on connaît des choses que les autres ne connaissent pas. Et on a des responsabilités que les autres n'ont pas. On connaît la puissance de l'amour. On connaît la puissance du don. On connaît la force du pardon. On connaît l'élan de l'espérance. Tout ça nous est donné par Dieu. Et en même temps, on a la responsabilité de vivre et de le rayonner. Alors, à quoi ça sert d'aimer Dieu ? Ça sert à rien à l'aune de ce monde, mais ça sert à tout. J'allais dire dans le secret de notre humanité. D'abord parce qu'on aime. On ne connaît pas Dieu, on l'aime. Et c'est une vraie question, ça. Est-ce que nous le connaissons intellectuellement ou est-ce que nous l'aimons avec nos tripes ? Est-ce qu'il nous prend aux tripes ? Jérémie dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Est-ce que nous sommes séduits par Dieu, tel que Jésus le révèle ? Ou est-ce que ça reste une espèce de connaissance gnostique ? Aimer, ça veut dire avoir une relation. Est-ce que j'ai une relation avec Dieu ? Est-ce que cette relation est une relation utilitaire ? Oh Dieu, dis donc, un moment un petit peu difficile, viens donc à mon aide. Ou est-ce que c'est devant l'émerveillement de la création, la louange qui naît ? Est-ce que c'est devant la personne que nous rencontrons qui semble si faible, la prière qui sourd de notre cœur ? C'est ça, aimer Dieu. C'est l'avoir toujours ancré au fond de nous-mêmes. C'est que toute situation, toute personne rencontrée nous dise quelque chose de Dieu. Tout peut nous dire Dieu. Tout nous dit Dieu. Vous me dites Dieu. La vie me dit Dieu. La misère du monde me dit Dieu. La splendeur de la création me dit Dieu. Le progrès technique me dit Dieu. La tristesse des hommes et des femmes me dit Dieu. Tout me dit Dieu. Rien de ce monde n'est étranger à Dieu. Et donc aimer Dieu, c'est regarder le monde d'une certaine manière. C'est pas simplement une relation bilatérale, mais ça colore toute mon existence. Parce que j'aime Dieu, j'aime les autres. Parce que j'aime Dieu et que je crois qu'il s'est incarné dans ce monde, j'aime ce monde. Comment peut-on aimer Dieu et ne pas aimer le monde ? Comment peut-on penser qu'on aime Dieu et penser que ce monde est hostile ? C'est là que Dieu a choisi d'habiter. Il ne vit pas dans un monde irréel. Il vient là, au milieu de nous. C'est là qu'il a planté sa tente. Donc comment ne pas aimer nos congénères ? Comment ne pas aimer ce qui s'y vit ? Donc, ça ne sert à rien aux yeux des hommes, mais ça bouleverse totalement l'existence. Parce que ça nous désaxe complètement. Ça nous décentre de nous-mêmes pour nous tourner vers l'autre, en sachant que l'autre nous renvoie l'amour que Dieu a pour nous.
Mais Dieu, il est dans les guerres, il est dans les tremblements de terre, il est dans les maladies, il est dans tout ça aussi.
Bien sûr, il est dans tout ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans tout ça comme une cause. Parce que la création gémit encore de les douleurs de l'enfantement, comme dit saint Paul. Et qu'il faut accepter qu'un jour, le royaume de Dieu sera définitivement établi. Mais il n'est pas encore. Dieu ne cesse de maintenir sa création dans sa main. Mais elle n'est pas encore achevée. Et donc cette création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, elle est encore dans cet état où Dieu vit que cela a été très bon. Mais où nous sommes dans l'état encore où nous attendons l'avènement du règne de Dieu. Et du coup, il est avec nous comme Claudel dit qu'il est avec nous. C'est-à-dire Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, mais pour y planter une espérance. Il est venu pour y planter une espérance. Pour dire que cette souffrance dans laquelle vivent beaucoup d'hommes et de femmes de notre temps, ce n'est pas une souffrance qu'ils affrontent seuls, mais que celui qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », celui-là tient ses promesses. Et cette espérance, c'est la certitude qu'un jour le règne de Dieu adviendra. Que ton règne vienne, on ne le dit pas quand même plusieurs fois par jour, sans que ce soit une réalité. Quand est-ce que ça viendra, je ne le sais pas. Mais ça viendra. Et ce règne, ce sera un règne d'amour, un règne de paix, un règne de joie, un règne où nous serons tout en tous. Imaginez un instant, quoi. Je n'ai pas de vision extatique, c'est dommage, hein, mais imaginez le règne de Dieu, quoi. Imaginez-le. C'est magnifique. Essayons de le vivre un peu jour après jour. Alors, on n'a pas fini Job encore, hein, ça se finit bien. Hein. Mais La question du mystère du mal est une question énorme, hein, c'est un espèce de scandale terrible. Deux, trois petites choses que je peux dire vraiment très humblement, parce que je balbutie là-dessus, que c'est une énigme fondamentale. Dès le début, il y a eu quelque part le mal. La Genèse nous raconte cette histoire de la création qui est une histoire, vous savez bien, ce qui n'explique pas comment ça s'est passé, mais pourquoi ça s'est passé. Dans ce premier péché où la femme et l'homme, hein, parce que c'est ensemble, hein, finalement, qu'ils ont bouffé la pomme, hein, mais ils le font avec le serpent, on ne nous dit pas pourquoi le serpent était là. On ne nous dit pas pourquoi le serpent était là. Mais il était là. Et donc ça veut dire que dès le départ, il y avait quelque chose dans l'ordre de la création qui manifestait qu'il y avait une puissance opposée à Dieu. La réponse du mystère du mal, pour moi, elle n'est que dans la contemplation de la croix du Christ. Il n'y a pas d'autre réponse au mystère du mal que dans la contemplation de celui qui va jusqu'au bout de l'amour en donnant sa vie. Et sur le bois de la croix, la dernière parole qu'il prononce, c'est « Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si nous ne contemplons pas le Christ sur le bois de la croix, aimant jusqu'au bout, portant un même regard sur Marie, sa mère, Marie-Madeleine, la femme pécheresse, et Jean, le disciple qu'il aimait, ce même regard sur les trois, alors nous ne pouvons pas comprendre que le mal est vaincu. Le mystère du mal, c'est le mystère que la toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance qui serait de Dieu un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Ça lui aurait peut-être été facile de dire qu'on aurait pu avoir une vie comme ça. Mais la liberté de l'homme, elle est plus grande que tout. Et Dieu a voulu l'homme libre. Et donc, qui dit liberté, dit forcément le choix du mal. Et donc, comment est-ce que, dit forcément, on peut dire le choix du mal. Et donc, comment est-ce que, justement, nous acceptons que le mystère du mal existe avec cette certitude qu'il est déjà vaincu par le Christ qui a donné sa vie pour nous et que nous attendons la manifestation de cette victoire. Je ne crois pas que Dieu envoie des épreuves à l'homme. Le livre de Job, vous savez, cette espèce de dîner mondain où Dieu se retrouve avec Satan et qui se dit « gna 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 gna, je vais envoyer le mal ». Le pape parle beaucoup du diable. Bon, pour vous dire que je suis complètement à l'aise avec ça, je ne sais pas. Mais c'est pas notre vocabulaire, c'est sa sensibilité. Moi, je pense que, en tout cas, je fais la preuve en ce moment dans l'Église d'une force de division énorme. Et cette force de division, le diable, le diabolos, c'est divisé, c'est le diviseur. Il est à l'œuvre, donc je le vois bien à l'œuvre. Mais il n'empêche que je suis persuadé qu'il est vaincu. Il est vaincu, et c'est Dieu qui est le plus fort. Donc acceptons pour le moment que tout ne soit pas parfait, que cette manifestation de la victoire, elle adviendra au dernier jour, mais nous en goûtons déjà quelque chose. Et l'Eucharistie que nous allons célébrer, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est Dieu qui se donne, Dieu qui nous donne sa vie, ce mystère de l'amour donné que nous revivons à chaque fois pour que nous en vivions. Et pour que nous vivions de cette victoire pascale. Quoi, on ne mange pas un petit morceau de pain ? Nous mangeons le corps du Christ ressuscité pour qu'il vienne faire sa demeure en nous et que nous soyons transpercés, traversés par la force de cette résurrection. Et traversés par cette force pour qu'elle nous donne l'élan d'avancer, de combattre. Et le combat, c'est... Il y a une des questions qui me dit très gentiment que vous n'avez pas parlé du combat spirituel, que tout ça c'est bien simple, mais que vous n'avez pas parlé... En gros, c'est ça, je crois, du combat. Je ne sais plus ce que c'est. Un mot sur le combat spirituel. Vous n'avez pas parlé du combat pour arriver au bonheur, combat spirituel interne. Je pense qu'on n'a pas besoin tellement d'en parler pour savoir qu'on le vit. D'abord. Et que tous, nous le vivons. Que tous, nous avons nos combats. Juste, peut-être, deux choses qui me frappent. Si nous pensons être... les seuls combattants, nous sommes morts. Vous vous souvenez du combat de Jacob dans la Genèse. Dans ce combat de Jacob, on ne sait pas très bien qui est vainqueur. On ne sait pas très bien qui est vainqueur. On sait simplement que Jacob en est resté marqué à la hanche. C'est-à-dire que le combat, c'est un combat dans lequel on reste marqué, marqué par Dieu, et qu'à la fin, on peut dire que Dieu était là. Dieu était là. Et que donc, ce combat, nous ne le menons pas tout seul. Nous le menons avec Dieu, mais on ne combat pas contre nous. Ça ne sert à rien, vous savez, quelquefois, de combattre directement quelque chose. Moi, je crois qu'il faut être plus pervers avec nous. Je pense que le combat, il est plus dans le développement de nos belles qualités plus que dans l'affrontement à nos défauts. C'est en développant ce qu'il y a de meilleur en nous qu'on éliminera ce qu'il y a de moins bon. Si on s'acharne à s'attaquer à ce qu'il y a de moins beau, on va peut-être vite se désoler parce qu'on découvrira qu'on a du mal à s'y attaquer. Mais en développant ce qu'il y a de meilleur, alors le meilleur prendra plus de place. Et le reste diminuera. Première chose. Deuxième chose, je suis persuadé que dans ce combat, l'essentiel n'est pas d'être victorieux, mais c'est de combattre. Et il y a, je ne sais plus quel auteur, qui disait « Puisse Dieu, s'il ne te trouve pas victorieux, te trouver en train de combattre. » C'est-à-dire de ne pas nous résigner à ce qu'il y a de plus bas en nous, mais d'essayer de chercher toujours à suivre le Christ. Mais peu importe que nous soyons victorieux ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est pas pour rien que Jésus est tombé 3 fois sur le chemin de la croix. Il aurait pu pas tomber, il aurait pu tomber qu'une fois, 2 fois, il est tombé 3 fois. Mais c'est pour porter toutes les fois où nous tombons. Mais à chaque fois, il s'est relevé. Et notre attitude, notre raison d'être, notre fonction, notre dignité, c'est pas d'être pécheur, c'est d'être pardonné, c'est-à-dire de se laisser relever par Dieu chaque fois que nous tombons. Nous pouvons tomber 10 000, 100 000, 2 millions de fois, aucune importance, nous nous laissons relever par Dieu chaque fois que nous tombons. Et nous repartons, forts de ce pardon. Nous ne pouvons pas rester le ventre collé à la poussière. Nous sommes faits pour être debout, debout devant Dieu. Pas pour le défier, mais pour le regarder et pour nous laisser regarder par lui. Nous sommes faits pour être debout. Et le combat, qu'est-ce que c'est d'être debout? Debout pour chanter sa louange, debout pour marcher, pour avancer. Et donc je crois que le combat, pour moi, c'est ça. C'est accepter de se remettre debout chaque fois qu'on est tombé parce que le Christ nous aide et nous relève. Et c'est essayer de développer ce qu'il y a en nous de mieux pour que ce qu'il y a de moins beau, à la lumière de ce qu'il y a de mieux, s'estompe. Je dis pas que j'y arrive, je dis pas que c'est facile, mais je dis que je pense que c'est la voie que j'y trouve. J'en prends une autre alors. Peut-on accepter de s'aimer, d'être heureux quand on vit dans la culpabilité? La question de la culpabilité, c'est une vraie question qui nous habite tous, plus ou moins fortement. Je pense que il me semble qu'il y a plusieurs sortes de culpabilité. Une culpabilité qui est saine et une culpabilité qui est morbide. La culpabilité qui est morbide, c'est celle qui nous enferme sur nous-mêmes. Et qui, parce qu'elle nous enferme sur nous-mêmes, nous dit « je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis un pauvre pécheur, je suis pécheur. » Ça ne sert pas à grand-chose. Mais si cette culpabilité, elle est celle qui nous dit « Oui, Seigneur, je suis un pauvre type, mais j'ai besoin de ton aide. » Alors elle nous permet d'avancer. Et cette culpabilité, du coup, elle se transforme non pas en quelque chose qui nous enferme sur nous-mêmes, mais en quelque chose qui nous ouvre à la puissance de Dieu, comme on disait tout à l'heure, à sa grâce infinie. Et c'est d'une plus une culpabilité morbide, mais c'est une culpabilité saine. Une culpabilité, quelque chose, c'est reconnaître que finalement, voilà, on est un pauvre homme. Oui, on est un pauvre homme, tous. Mais le pape aussi, ce pauvre homme. Et du coup, c'est ça qui nous permet de nous ouvrir à la puissance de Dieu. Mais à quoi ça sert de se dire « je suis coupable » ? Alors c'est difficile à extriquer de notre pensée. Hein, de... Et puis il y a toutes ces... tout ce que l'on reçoit de notre éducation, de l'environnement, de la religion, d'une vision de Dieu. De... Voilà, mais vous avez entendu dans l'Évangile Jésus dire « Oh, quel coupable celui-là » Il dit à Zachée « Viens, aujourd'hui je veux demeurer chez toi. Aujourd'hui je veux demeurer chez toi. » Et Zachée, qui se sentait coupable, voilà qu'il l'accueille chez lui. Et l'accueil chez lui de Jésus va le faire donner aux pauvres 4 fois ce qu'il avait volé. Donc je crois que c'est ça, si c'est la culpabilité nous permet d'accueillir le Christ, alors voilà, bienheureuse culpabilité, parce que bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Mais une culpabilité qui enferme, alors oui, elle nous empêche d'être heureux parce qu'elle nous empêche de nous aimer. Elle nous empêche de nous aimer. Et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Oui, même si quelquefois, moi, je vois des gens qui sont pardonnés parce que peut-être ils sont scrupuleux, ils ont toujours cette impression de culpabilité en eux. Mais sur le pardon, moi, j'ai beaucoup appris d'un philosophe juif, Armand Abécassis. Armand Abécassis a réfléchi sur le pardon après la Shoah. Peut-on pardonner après la Shoah ? Et il a dit cette chose qui me paraît extrêmement forte. Ce qu'on peut excuser n'a pas besoin d'être pardonné. Ce qu'on peut oublier n'a pas besoin d'être pardonné. Donc l'objet du pardon, c'est ce qui est inexcusable et inoubliable, c'est-à-dire proprement l'impardonnable. Et je crois que c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que l'objet du pardon, c'est ce qu'on ne peut ni excuser ni oublier, donc l'impardonnable. Et donc il va jusqu'aux racines, le pardon. Il va jusqu'aux racines. Le père Lataste disait... Lorsqu'il pardonnait à ses détenus, il disait « Elle retrouve leur innocence première. » Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort. Le pardon va jusqu'à extirper les racines du mal pour retrouver notre innocence première. S'il n'y a plus de mal, il n'y a plus de raison d'avoir la culpabilité. Mais il faut que nous soyons aussi honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que quelquefois, cette culpabilité... elle n'est pas un petit confort. C'est-à-dire, est-ce que quelquefois, on n'est pas finalement heureux de se dire « ça ne va pas très bien avec moi-même » parce que ça nous empêche d'avancer. Je pense qu'il peut y avoir en nous une connivence avec le mal. Il peut y avoir en nous une espèce de connivence avec cet état qui, quelquefois, si je suis coupable et si je pense que Dieu ne peut pas me pardonner... ben, je ne m'ouvre pas au pardon de Dieu. Mais si Dieu peut aller jusqu'à l'extrême de mon péché, de ma faute, de moi, pour extirper ça de moi, mais alors je suis sans aucune sécurité, puisqu'il m'entraîne là où moi je ne sais pas où aller, si ce n'est avec ma propre culpabilité. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas se satisfaire d'un petit confort, quoi. Jésus nous entraîne à... au large, va au large, va au large. Quitte ce qui te fait vivre. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, ni que... Voilà, je pense bien qu'il y a des culpabilités qui sont ancrées en nous et qu'on a du mal à extirper, mais il y a de l'ordre du spirituel, il y a de l'ordre du psychologique, il faut pas confondre les deux. Mais... voilà, je pense que si Jésus a dit sur la croix « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », qu'est-ce qui peut résister au pardon de Dieu, quoi ? Dieu est-il sadique ? Ben oui, mais la question c'est... Le chemin de la perdition est large, oui, peut-être, oui, sans doute, oui. Mais là... Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous sommes tentés... Quoi, il faut aussi nous regarder, quoi. Pardonnez-moi, merde. On ne fait pas que le mal. On ne fait pas que le mal.
L'esprit critique, on voit quelqu'un, on voit quelque chose, l'esprit critique, Dieu ne nous a pas fait entièrement libre, parce qu'il aurait dû faire aussi difficile de faire le bien, aussi difficile de faire le mal. Or, c'est plus facile de... Enfin, je parle pour moi. Je suis peut-être le seul. Non, mais la critique est...
Tu es le seul, Marcel.
Et c'est là où je me dis, quand je le verrai, je dirais, pour moi, être libre, voilà, est-ce que je vais critiquer la personne ou est-ce que je vais... Or, mon premier réflexe, c'est... t'as vu ma route, ça peut arriver, allez, combien on la voit, gna. Et ça, c'est dans notre... Et pour extirper ça, tiens, bonjour.
Oui, mais ça nous pose la question de la liberté. Qu'est-ce que c'est finalement que la liberté? Est-ce que la liberté, c'est de choisir ce qui nous plaît, ce qui est le plus facile, ce qui nous plaît? Ou est-ce que la liberté chrétienne, profondément, c'est le choix du bien, c'est-à-dire ce qui nous humanise? Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous déployons chaque jour davantage notre humanité. Parce que notre humanité, c'est ce qui est beau, puisque c'est ce qui est à l'image de Dieu. Et il demande que nous la déployions chaque jour davantage, et que donc nous choisissions toujours ce qui déploie notre humanité, jusqu'à ce qu'elle soit totalement en Dieu divinisée, cette humanité. Mais donc, il y a un faux exercice de la liberté qui est le choix du mal. Le choix du mal n'est pas le vrai exercice de la liberté, c'est un faux usage de la liberté. Puisque si la liberté doit consister en choisir sans doute ce qui nous humanise, c'est le choix du bien. Et donc il n'y a de liberté que dans l'exercice qui nous permet de choisir le bien.
C'est un combat.
Ben oui, c'est un combat.
Perpétuel.
Ben oui, mais en même temps, c'est un combat dont nous savons que nous serons les vainqueurs, puisque nous sommes avec le Christ. Et c'est un combat dont nous savons aussi que nous ne sommes pas tenus à une obligation de résultat. Mais que le pardon est là pour nous dire que le moyen, c'est déjà pas mal. Alors, je ne rabaisse pas les exigences du christianisme. Je connais le radicalisme du christianisme. Mais vous savez que le pape a dit un jour, il n'y a pas très longtemps, j'aime pas beaucoup le mot radicalité. Il parlait à des religieuses. J'aime pas beaucoup le mot radicalité. Moi, je crois plutôt à la suite humble. À la suite humble du Christ. Et du coup, on peut regarder le mal qui est en nous, mais par pitié, regardez le bien qui est en vous. Regardez le bien. Tenez, encore, un texte de Peggy. J'aime beaucoup Peggy, vous l'avez remarqué. Hein, un texte de Peggy. Je comprends très bien, dit Dieu, qu'on fasse son examen de conscience. C'est un excellent exercice. Il ne faut pas en abuser. C'est même recommandé, c'est très bien. Tout ce qui est recommandé est très bien. Et même, ce n'est pas seulement recommandé, c'est prescrit. Par conséquent, c'est très bien. Mais enfin, vous êtes dans votre lit. Qu'est-ce que vous nommez votre examen de conscience? Faire votre examen de conscience. Si c'est penser à toutes les bêtises que vous avez faites dans la journée, si c'est vous rappeler toutes les bêtises que vous avez faites dans la journée, avec un sentiment de repentance, et je ne dirais peut-être pas de contrition, mais enfin, avec un sentiment de pénitence que vous m'offrez, eh bien c'est bien. Votre pénitence, je l'accepte. Vous êtes des braves gens, des bons garçons. Mais si c'est ce que vous voulez ressasser et ruminer la nuit, toutes les ingratitudes du jour, toutes les fièvres et toutes les amertumes du jour, et si c'est ce que vous voulez tenir un registre parfait de vos péchés, de toutes ces bêtises et de toutes ces sottises, non, laissez-moi tenir moi-même le livre du jugement. Vous y gagnerez peut-être encore. Et si c'est que vous voulez compter, calculer, supputer comme un notaire et comme un usurier et comme un publicain, c'est-à-dire comme un collecteur d'impôts, c'est-à-dire comme celui qui ramasse les impôts, laissez-moi faire mon métier et ne faites pas des métiers qui n'ont pas à être faits. Vos péchés sont-ils si précieux qu'il faille les cataloguer et les classer? Vous n'y pensez que trop à vos péchés, vous feriez mieux d'y penser moins pour ne point les commettre. Voilà, dans le mystère des saints innocents. Peggy était un grand spirituel. Peut-être que nous pensons trop à nos péchés et que nous ne regardons pas assez ce qu'il y a de bien en nous. Alors entre le relativisme, qui est de dire vérité du ce côté des Pyrénées et erreur au-delà, et cette espèce de dogmatisme qui est de dire il y a le noir et le blanc, il faut accepter qu'il y ait du gris dans la vie. C'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que je pense que la perfection n'est pas de ce monde et que donc nous sommes à la recherche, nous tâtonnons dans la recherche de la vérité, nous tâtonnons dans la recherche du bien. Alors là-dessus, je vois bien tout ce que les théologiens moralistes et tout ce que le magistère pourra dire sur des choses très importantes comme les actes intrinsèquement mauvais, comme tout ce que vous voulez. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de très profond en l'homme. Est-ce qu'il y a en lui ce désir de suivre le Christ ? Est-ce qu'il y a en lui ce désir profond de chercher le bien ? C'est ce que des moralistes ont appelé, de quelque chose, rassurez-vous, qui a été condamné par Jean-Paul II, l'option fondamentale. Cette espèce d'option fondamentale vis-à-vis de la suite du Christ, vis-à-vis de Dieu. Cette option fondamentale radicale en nous, de rechercher Dieu, de chercher Dieu. Et qui fait qu'elle s'actue, elle s'actualise dans un certain nombre d'actes, qu'elle peut se perdre dans des actes qui sont mauvais. Mais moi, je ne sais pas, honnêtement, quelquefois... Il y a des choses que j'essaye de faire bien, il y a des choses que j'essaye de faire bien et dont je m'aperçois qu'en fait, elles font du mal. Et donc, il y a dans toute relation, il y a ce que je pense moi et puis il y a ce que l'autre ressent. Mais au moins, je pourrais dire j'ai essayé. J'ai essayé. Je vous ai dit ça ?
Oui,
j'ai essayé. Alors moi, honnêtement... plutôt que de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, faire de son mieux. Faire de son mieux. À la lumière de ce que nous apprend l'Évangile, de ce qu'est notre conscience sanctuaire, intangible, inviolable. La conscience, c'est-à-dire cette intériorité dans laquelle l'homme est seul face à Dieu, et cette conscience qui lui dicte ce qui est bien, qui lui dicte ce qu'est de faire le bien et d'éviter le mal. Et cette conscience dont la théologie morale nous dit que même si elle se trompe, nous devons la suivre, pourvu qu'elle soit éclairée. Mais il faut suivre sa conscience même lorsqu'elle se trompe. Et donc, c'est au regard de notre conscience que nous devons savoir ce que nous devons faire. Mais... la conscience, ça se travaille, c'est-à-dire que ça demande des plages d'intériorité pour être seul face à soi-même, pour écouter Dieu nous parler, pour nous mettre dans cette attitude où nous sommes effectivement face à nous-mêmes. Si nous courons toute la journée, si nous n'avons jamais aucun moment, nous sommes face à nous-mêmes et face à Dieu, mais nous ne pouvons pas savoir ce que nous devons faire. Mais écouter Dieu.
Et l'accompagnement spirituel.
Oui, ça aide au discernement. Ça aide aussi au discernement. Ça, c'est clair que le discernement est quelque chose d'essentiel. Pour moi, le discernement, c'est l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Ce qui en nous provoque la paix, la joie et l'ouverture aux autres est très certainement ce que Dieu veut pour nous. Et donc, la paix, la joie et l'ouverture aux autres. Et donc, comment est-ce que nous discernons pour savoir ce qui nous donne une vraie paix, une vraie joie et une véritable ouverture aux autres. Alors Henri, je répondrai en deux temps. Le premier, c'est pour reprendre ce que disait la petite Thérèse. Elle, qui voulait être apôtre, qui voulait être missionnaire, qui voulait être prophète, et qui a terminé dans ce cri magnifique « Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Et donc la première chose, je crois, si tu me permets, c'est de ne pas demander à l'Église ce qu'elle devrait faire pour nous accueillir, mais c'est de se demander ce que nous devons faire pour qu'elle nous accueille. Et donc, au cœur de l'Église, soyez l'amour. Soyez l'amour. C'est-à-dire, soyez ce qui aime. Ce qui l'aime, elle, l'Église, telle qu'elle est. Ce qui aime les autres. Ce qui aime les chrétiens. Ce qui aime ceux qui vous rejettent dans votre famille, dans l'Église. Au cœur de l'Église, soyez l'amour. Et de l'intérieur, elle sera transformée. Ensuite, il y a l'Église, il y a nos familles, il y a tout ça. Alors je pense, il me semble que, vous savez, il y a... D'abord, il faut regarder les énormes progrès, les pas qui ont été faits en quelques années. Vous venez avec d'autres, où ça va être publié, un petit livre du HEC avec d'autres associations, publier les initiatives diocésaines pour l'accueil des personnes homosexuelles. Moi, je suis, depuis, ça fait 8 ans que je suis à la conférence, mais il y a 8 ans, il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a d'énormes choses qui ont été faites, et il faut reconnaître que c'est un effet induit des événements de 2013-2015 qui ont été blessants pour beaucoup, mais qui ont réveillé les consciences aussi, dans ce domaine-là. Et que donc, d'un mal peut sortir un bien, très certainement. Et donc, comment est-ce que nous pouvons continuer à travailler dans ce champ-là. C'est-à-dire, le but, hein, moi je le dis très sincèrement, le but, c'est pas de créer des groupes dans les paroisses pour les personnes homosexuelles, c'est que les personnes soient accueillies dans les paroisses comme les autres. C'est pas d'avoir des groupes à part. Mais c'est qu'à un moment, elles participent à toutes les activités. Donc je pense qu'il faut participer, avoir des étapes, mais le but, c'est qu'elles soient accueillies comme toutes. Ensuite, oui, sinon ça risque de faire des ghettos. Ensuite, je pense quand même... il faut accepter que le temps joue. On ne peut pas vouloir tout de suite. Je me souviens de deux amis que j'aime beaucoup, deux hommes qui sont mariés, qui ont une petite fille, et qui m'ont dit, on est allé à la Saint-Valentin, à la paroisse, et on s'est fait jeter. Je leur ai dit, ouais, vous êtes gentils les gars, mais quand même... peut-être que vous auriez peut-être pu dire déjà au curé, est-ce que tu crois qu'on peut aller à Saint-Valentin, etc. Je comprends que ça soit blessant, mais je comprends aussi qu'il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste. Les choses progressent, laissant le temps au temps. Je comprends votre impatience, mais laissons le temps au temps. Et c'est quand même rassurant de voir ces progrès qui ont été faits pour se dire qu'il y en a d'autres qui seront faits. Au cœur de l'amour, soyez, au cœur de l'Église, soyez l'amour pour l'aimer. Et de l'intérieur, faites-la avancer dans cet amour, dans cette reconnaissance, dans cet amour. Vous voyez, je fais une digression, mais on vit des moments difficiles, là. On vit des moments difficiles. On peut avoir l'impression que le bateau tangue. Ce qui m'étonne le plus, c'est que devant tout ça, il y a la division qui est à l'œuvre. Et puis que tout d'un coup, tout le monde a sa recette. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Il faudrait changer la gouvernance, il faudrait faire ci. Oui, mais si déjà on s'aimait un peu plus tous les uns les autres. Si déjà on se respectait dans nos différences. Si déjà on avait un peu de miséricorde. Recherche miséricorde désespérément. Désespérément. Vous savez, je vais vous dire, moi je n'ai aucune concession vis-à-vis de la pédophilie. Aucune. Mais je souffre de ce que des gens sont condamnés à mort socialement sans qu'il y ait aucune possibilité de rémission pour eux. Ça, et quand c'est des confrères qui le disent, est-ce que c'est évangélique, quoi ? Cherche miséricorde désespérément. Et du coup, je crois qu'il faut que nous soyons miséricordieux les uns vis-à-vis des autres et que nous acceptions que certains comprennent, que d'autres ne comprennent pas. Puis, voilà, moi je vois, hier il y avait une ordination de diacre permanent à Paris, il y a un de ces diacres permanents qui a un de ses fils homosexuels. Quand je vois mais le chemin qu'ils ont fait, lui et sa femme, en 3-4 ans, mais c'est incroyable. Donc si eux ont fait ce chemin, d'autres le feront, la société va le faire, la société l'a fait. Alors moi, je crois beaucoup à ce chemin, mais nous ne croyons pas qu'on s'est arrêté ni les uns ni les autres. Mais si on ne commence pas, on ne le fera pas. Donc il faut commencer à reconnaître que le renard qui est à côté de nous, il a quelque chose à nous apprendre et qu'il faut lui dire « apprivoise-moi ». Et donc il faut s'apprivoiser les uns les autres. Il faut donc, je crois qu'il faut que vous vous montriez, que vous n'ayez pas peur de prendre votre place, que vous soyez vous-même, que sans agresser les autres, sans tout d'un coup leur dire vous êtes des mauvais chrétiens parce que vous ne nous accueillez pas, mais en même temps en étant vous-même. Et puis, il n'y a pas de gens parfaits et il n'y a pas de gens sans blessure. Vous savez, les familles parfaites, hein, combien j'ai entendu quand j'étais paroissien, mais regarde les untels, c'est une tellement belle famille. Mais s'ils savaient les souffrances dans cette famille, s'ils les savaient, ces souffrances. Donc pensez bien que souvent l'agressivité, c'est la cuirasse pour marquer sa propre faiblesse. Et donc il faut aimer encore plus les gens qui sont agressifs. Moi j'ai appris ça avec les journalistes. Mais à l'homme riche, il lui a dit Oui, tout ça, ce que tu fais, tout ça, c'est parfait. Tu es dans ton père, ta mère, tu ne pratiques pas l'adultère, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu es parfait. Va avant, tout est bien, suis-moi. Et l'homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. On n'a pas l'épisode 2 de la femme adultère. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle a plus péché. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle était revenue vers le Christ, il lui aurait pardonné une deuxième fois. Si elle était revenue une 20e fois, il lui aurait pardonné une 20e fois. Il lui aurait dit « Va, ne pêche plus !» Parce qu'il sait qu'il y a là pour elle un chemin de bonheur. Mais il nous pardonnera toujours. Le simple fait de reconnaître qu'il y a dans notre vie quelque chose qui, quelque part, nous dit que c'est pas... Il y a quelque chose qui pend complètement ajusté avec Dieu. Et c'est le signe même que nous avons besoin de lui. Vous savez, moi, comme prêtre, ça fait bientôt 30 ans que je suis prêtre, je ne me suis jamais, jamais cru propriétaire du pardon de Dieu. Je ne me suis jamais dit, je ne pouvais pas pardonner. Jamais. Je me souviens d'une fois où quelqu'un est venu me dire qu'il était marié avec une femme et puis qu'il avait une maîtresse et qu'il était hors de question qu'il quitte sa maîtresse. En stricte orthodoxie, j'aurais dû lui dire, bah, écoutez, cher monsieur, puisque vous ne voulez pas quitter votre maîtresse, je ne peux pas vous pardonner. Peut-être que j'aurais dû lui dire ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait, Jésus? Et je me dis, si cet homme vient me dire ça, c'est qu'il a bien conscience qu'il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. Le pardon qui nous est donné, ce n'est pas le point d'arrivée d'une démarche, c'est une force pour avancer. Et c'est peut-être ce pardon donné avec d'autres qui lui fera un jour découvrir qu'il y a quelque chose de mieux qu'il peut vivre. Alors, après, il y a des péchés, nous sommes des pécheurs, et puis il y a l'attitude de celui qui sait qu'il reconnaît qu'il est faible, qu'il aimerait bien avancer, qu'il ne peut pas, et puis, qui suis-je pour juger ? Celui qui cherche Dieu. Le pire, ce serait se résigner à ne pas accueillir le pardon de Dieu. En se disant, de toute façon, puisque je ne peux pas changer, je ne peux pas accueillir le pardon de Dieu. Si, on peut toujours accueillir le pardon de Dieu. Toujours. On peut toujours se laisser relever. Mais c'est quoi se convertir ? Ben oui. Avant d'être moral, la conversion, c'est la suite du Christ. Je ne suis pas sûr qu'on se convertit d'abord en faisant des actes moraux. Mais se convertit d'abord en regardant le Christ et en le suivant, et en prenant sa croix. Et en acceptant qu'il nous conduise là où nous ne voudrions pas. Vous savez, quand Jésus dit à Pierre, un jour viendra, tu étendras les bras, on te ceindra d'une ceinture et on te conduira là où tu ne voudrais pas aller, je me suis souvent demandé, mais où est-ce que le Seigneur me conduira un jour ? Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est en ce moment qu'il me conduit. C'est-à-dire, c'est pas dans le futur, c'est maintenant. On te conduira là où tu voudrais pas aller. Ben voilà, ben c'est là où on te conduit. Et c'est là où tu dois être. Et c'est là où tu dois me suivre. Mais la conversion, c'est d'abord se convertir à Dieu. C'est se convertir à la puissance de Dieu. C'est se convertir à l'amour de Dieu. C'est se convertir à ce que Dieu vienne nous remplir. C'est pas d'abord manifesté par des actes que nous nous conversions. C'est une attitude radicale de l'être qui s'ouvre totalement à Dieu. C'est ça la conversion. Après, là où ça nous conduit, c'est à Dieu que ça appartient. Il faut tenir bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Et s'émerveiller en même temps de ce que... D'abord, se rappeler le publicain et le pharisien. Hein. Le publicain, il se frappait la poitrine. Aie pitié de moi, Seigneur, pauvre pécheur. Et le pharisien, il regardait le publicain en disant, regarde, Seigneur, celui-là, il n'est pas bien, etc. Qu'est-ce qui est rentré justifié chez lui, dit Jésus. C'est le publicain, c'était le pauvre pécheur. Et puis se dire que, voilà, encore une fois, ce qui nous caractérise, ce n'est pas notre péché. Ce n'est pas ça qui nous caractérise, c'est notre humanité. C'est notre dignité d'enfant de Dieu. C'est ça qui est plus forte que tout. Ça, c'est plus fort que notre péché. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes aimés de Dieu, et qu'il ne nous aime pas malgré notre péché. Et qu'il nous aime avec notre péché. Il nous aime avec notre péché. Mais il ne l'a pas créé. Il ne l'a pas créé, il est venu comme ça. Oui. Je comprends bien ça. Ça me rappelle une personne qui me disait qu'il avait eu une vie difficile pendant plusieurs années dans sa vie conjugale et qui me disait, je crois que si j'étais pas allé communier tous les dimanches, ça aurait pu durer des années, des années, des années. Et donc, de fait, cette communion, c'est encore une fois, comme la réconciliation, c'est pas une récompense, mais c'est une force pour avancer. Et en même temps, je pense qu'il faut reconnaître que quelquefois, si on veut être honnête avec soi-même, on est tellement en décalage par rapport à ce que Dieu veut de nous, parce qu'on est tellement tricheur, parce qu'on est tellement faux, parce qu'on est tellement, je sais pas, peu importe, que il faut peut-être mieux quelquefois s'abstenir de communier. C'est, pour moi, je vais vous dire, c'est une grande souffrance depuis que je suis prêtre de devoir toujours communier, puisque la messe n'est valide que si le prêtre communie. Donc je ne peux pas ne pas communier. Or, quelquefois, j'aimerais m'abstenir de communion, parce que je sens que vraiment, accueillir le Christ, ça serait quelque chose d'un peu hypocrite, quoi. Et, alors je le prends avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire, ben voilà, le Seigneur est plus grand que tous mes manques, toutes mes faiblesses, mais quelquefois, je me dis, mais j'aimerais bien écouter sa parole, vivre ce mystère pascal sans communier, humblement, parce que je pense qu'il y a un trop gros décalage entre ma vie et ce que le Christ m'offre, qui est trop grand, quoi, qui est trop grand pour ce que je suis là. Et puis la fois d'après, je communierai. Mais y a quelque part dans la communion aussi deux écueils, c'est le fait de se dire je ne suis pas digne, je ne vais pas communier, etc. Et puis de se dire c'est une habitude de communier. Il faut retrouver un équilibre, je pense, entre les deux. Fouillard. Moi, j'aime bien la guérison aussi. Parce que c'est un baume apaisant. C'est un baume apaisant. Et qu'on a besoin d'être apaisé, que le Seigneur, c'est un guérisseur, quoi. C'est dis seulement une parole et je serai guéri. C'est fort quand même, hein. Et je serai sauvé. Sauvé. Je pense qu'on a perdu la notion du salut. C'est un peu dommage. Nous avons besoin d'être sauvés. Et ça, c'est important de se le redire. À cette question, la réponse est oui. Mais c'est quoi la contrition, quoi? Je ne sais pas. J'allais dire, si on allait se confesser et qu'on avait la certitude qu'avec le pardon reçu, nous ne pécherions plus, ce serait un espèce d'acte unique. Et on voit bien comment, dans l'histoire de ce sacrement, on est arrivé à le donner in articulo mortis sur le lit de mort, parce qu'on ne pouvait pas être pas absous d'autrefois. Mais la contrition, c'est quoi? C'est avoir ce regret de nous être séparés quelque part de Dieu, c'est-à-dire de n'avoir pas voulu vivre dans l'intimité totale avec Dieu. Ce sont des mots. C'est pour ça que dans le rituel de la confession, il est dit qu'on peut dire l'acte de contrition, mais qu'on peut dire le Notre Père aussi. Mais encore une fois, je pense que le sacrement de confession n'est pas un sacrement pour les parfaits. C'est un sacrement pour les pécheurs. Et donc, c'est le sacrement, c'est normal qu'on le reçoive et qu'on repêche après, quoi. J'allais dire, c'est pas un truc magique qui nous enlève une verrue, hein. Donc c'est vraiment le sacrement dans lequel Dieu se donne pour nous dire mais tu ne te réduis pas à ce que tu fais, tu es plus grand que tout ça. Et puis confessez d'abord les manques d'amour. Je crois que c'est ça qui est le plus important.